Et c'est l'heure du journal de la rédaction présenté par Thomas Cluzel. Bonjour Thomas.
Bonjour Lucille, bonjour à toutes et à tous. La France a annoncé ce matin la neutralisation au Mali par sa force Barkhane d'un cadre djihadiste de tout premier plan lié à Al-Qaïda et dont le nom était associé ces dernières années à de très nombreuses attaques dans la région.
De son côté, l'Union européenne affirme sa volonté d'accélérer le combat contre le terrorisme. Un mini-sommet est organisé en ce sens aujourd'hui à Paris.
Et faut-il le rappeler, toutes ces annonces interviennent alors que la France commémore aujourd'hui le 5e anniversaire des attentats djihadistes du 13 novembre 2015. Nous serons devant le Bataclan.
L'État ne peut pas tout.
Oui, 20 ans après la célèbre déclaration de Lionel Jospin, la malédiction du politique incapable de résister aux intérêts économiques des industriels continue. Hier, Bridgestone a confirmé la fermeture de son site de Béthune. Invité de la rédaction aujourd'hui, Roland Lescure, président LREM de la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale. Enfin, 10 jours après le scrutin, la défaite de Donald Trump à l'élection présidentielle américaine semble de plus en plus incontestable, en particulier après la victoire confirmée de Joe Biden en Arizona. Voilà plusieurs jours que les images d'un véhicule calciné et de corps noircis étendu à terre sur des nattes en plein désert circulaient sur les réseaux sociaux. Et ce matin, la ministre des Armées, Florence Parly, l'a donc confirmé. Le chef militaire de la branche d'Al-Qaïda au Mali a bien été tué mardi dernier au cours d'une opération aéroportée menée dans le nord-est du Mali. Cadre historique de la mouvance djihadiste au Sahel, Bag Moussa, également connu sous le nom de Bamoussa Diarra, était considéré comme le responsable d'attaques majeures contre les forces maliennes, dont une en juillet 2016 et l'autre en mars 2019 qui avait fait plus de 20 morts chacune et son nom revenait avec insistance dans plusieurs attaques en 2020. Bertrand Galichet, bonjour.
Bonjour Thomas.
Alors précisons que cette intervention a été lancée alors même que vient de s'achever une opération d'envergure de la force Barkhane et ses alliés dans la zone dite des trois frontières pendant laquelle des dizaines d'autres djihadistes ont été tués. Mais s'agissant donc de cette frappe aérienne mardi dernier, eh bien Florence Parly salue donc Bertrand un succès majeur dans la lutte contre le terrorisme.
Oui, une opération lancée mardi soir à la tombée de la nuit à une centaine de kilomètres au nord de Ménaka, dans l'est du Mali, à proximité de la frontière du Niger. Le pick-up des djihadistes a été détecté et identifié par des moyens de renseignement. Deux hélicoptères français de manœuvre et deux autres de combat, appuyés par des drones, ont alors intercepté le véhicule tout-terrain. Selon l'armée, des tirs de sommation ont eu lieu pour contraindre la voiture à stopper. Les occupants ont ouvert le feu avec des mitrailleuses et de l'armement individuel contre les militaires français. Les hélicoptères de reconnaissance et d'attaque ont aussitôt riposté au canon de 30. Parallèlement, une quinzaine de soldats français déposés au sol ont engagé le combat qui a duré au total une quinzaine de minutes. Tous les occupants du pick-up ont été tués. Parmi eux, Bag Moussa, ce Touareg, chef militaire du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, organisation terroriste liée à Al-Qaïda. Déserteur de l'armée malienne, il était effectivement un cadre historique de la mouvance djihadiste au Sahel, chargée en particulier de la formation des nouvelles recrues, très populaire parmi les Touaregs. Bag Moussa avait organisé des attaques meurtrières, vous en avez parlé, contre des casernes de soldats maliens. Son élimination est un coup porté au groupe terroriste, car elle le prive d'un chef opérationnel. Une opération qui montre aussi que la France entend poursuivre ses interventions militaires sur place, malgré l'infléchissement de la ligne politique du nouveau gouvernement malien, qui, lui, n'exclut pas un dialogue avec les djihadistes.
Merci Bertrand Galichet. Alors cette annonce ce matin de la ministre des Armées intervient évidemment à une date particulière, 5 ans, jour pour jour après les attentats du 13 novembre et dans un contexte non moins saisissant. Tout d'abord, la France vient de vivre pas moins de 3 attentats en moins d'un mois, de sorte que la menace terroriste maintenue à un niveau élevé depuis 2015 vient d'être remontée à son niveau maximal. Ensuite, avec le procès toujours en cours des attentats de janvier 2015, mais aussi celui à venir des attaques précisément du 13 novembre, une séquence judiciaire s'est ouverte, prévue pour durer jusqu'en 2022, sans oublier bien sûr l'instrumentalisation en France comme à l'étranger des récents discours d'Emmanuel Macron contre le séparatisme islamiste. Quoi qu'il en soit, ce matin avaient donc lieu plusieurs cérémonies de commémoration en hommage aux victimes de ces attentats du 13 novembre 2015 et en particulier devant le Bataclan. C'est un reportage signé Delphine Evenou.
C'est le point d'orgue de cette matinée de commémorations officielles en petit comité. Après le Stade de France et les terrasses, le Premier ministre, la maire de Paris, les présidents des 2 associations de victimes se recueillent devant le Bataclan. 90 morts, 90 noms égrenés, suivis d'une minute de silence. Le quartier se fige. À distance, autour du périmètre de sécurité, quelques dizaines de personnes sont là. Martine est venue, comme chaque année, avec des roses blanches à la main.
Je pense à tous ces gens qui ont été tués gratuitement, enfin pour, dans des moments de plaisir où ils faisaient la fête, où ils écoutaient des concerts. Mais là, cette année, je trouve que c'est triste parce qu'il n'y a personne. Alors que d'habitude, c'est noir de monde, on était tous là-bas.
Accroché à un balcon, un drapeau français rend hommage aux victimes. Les habitants sont encore imprégnés de cette soirée de 2015. Michel a les yeux rougis.
Le 13 novembre, j'ai été marquée parce que c'était comme une guerre. Et moi, j'ai connu des pays en guerre, donc c'était très douloureux de voir ça à Paris. Moi, je fais partie de cette jeunesse qui a été attaquée. C'était complètement surréaliste, en fait. Il y a comme encore un stress post-traumatique.
Ce matin, tous les âges étaient là et le pas des passants plus lent, comme chaque journée du 13 novembre, explique Emmanuel, la trentaine.
Je ne dis pas qu'on l'appréhende, mais c'est un moment particulier, forcément, déjà pour les habitants du quartier et pour la France entière. Ça restera une journée particulière, peu importe, même 5 ans après, je pense que ça reste encore important.
La cérémonie s'est achevée vers 11h. Le périmètre de sécurité a été levé, laissant place aux hommages anonymes et fleuris.
Alors, on l'a dit de Charlie Hebdo, en janvier 2015, jusqu'aux 3 attaques au couteau de cet automne, la France est régulièrement frappée par le terrorisme. Avec quel impact sur les familles des victimes? De nombreux chercheurs tentent d'en mesurer encore aujourd'hui les effets. Et c'est le cas en particulier de Denis Péchanski, historien, directeur de recherche au CNRS, co-auteur avec Laurent Nattier et Cécile Auchard de 13 novembre, des témoignages, un récit publié aux éditions Odile Jacob. Il était l'invité ce matin de la matinale de Guillaume Erner.
On parle rarement des parents endeuillés. Et nous, on a un chapitre entier sur les proches, sur l'après. Parce que, par exemple, le magnifique documentaire des frères Naudet sur le 13 novembre s'arrête juste à la fin du Bataclan. Mais sauf qu'il s'est passé des choses après. Et c'est ce qu'on raconte. Et ce dernier chapitre, qui est sans doute le plus dur, bon, parce que c'est la recherche des enfants, quoi. Enfin bon, des enfants, Je parle de mon âge, quoi. Bon, voilà, j'ai le même âge que les parents qui cherchaient leurs gosses, et des gosses qui sont morts, et ça a pu durer 2 jours, 3 jours, enfin, et avec en plus ce qui s'est passé à l'Institut médico-légal. Et ce chapitre-là fait émerger cette image du parent endeuillé qui est rarement présentée, alors même que c'est une dimension absolument fondamentale des conséquences psychiques, psychologiques et physiques de ces attentats.
Voilà, Denis Péchanski, co-auteur de 13 novembre, des témoignages, un récit publié aux éditions Odile Jacob. Comment à présent améliorer la lutte antiterroriste après les attentats qui ces dernières semaines encore ont lourdement endeuillé la France, mais aussi l'Autriche? Les 27 ministres de l'Intérieur de l'Union Européenne se pencheront aujourd'hui sur les moyens d'y parvenir. Un mini-sommet sera organisé aujourd'hui à l'Élysée. Mais hier soir déjà, la Commission européenne a annoncé un programme de lutte qui sera rendu public le 9 décembre prochain. L'occasion de rappeler Angélique Boin que si les outils européens pour lutter contre le terrorisme sont actuellement nombreux, en revanche, tous ne sont pas opérationnels.
Il y a des lacunes, concède la commissaire européenne en charge de ce dossier. Il faut que tous les combattants terroristes étrangers soient réellement enregistrés dans le système d'information Schengen pour qu'il y ait une alerte s'ils rentrent dans l'Union, explique Ylva Johansson. Il faut aussi parachever le PNR, ce dispositif d'identification des passagers aériens, adopté en 2016 et toujours pas totalement appliqué. Règles sur les armes à feu, lutte contre le financement du terrorisme, renforcement d'Europol à Paris, on pousse également pour une meilleure utilisation de l'arsenal existant, mais l'on estime également qu'il faut resserrer les mailles du filet pour mieux sécuriser l'espace Schengen avec des contrôles accrus aux frontières extérieures. Le sujet frontière-passoire, sujet très sensible et donc relancé, attention à garder la libre circulation à l'intérieur de l'espace, prend soin de préciser la commissaire Johansson. Lors du mini-sommet de mardi, les dirigeants européens présents ont aussi rappelé l'urgence d'agir contre les contenus terroristes et haineux en ligne sur Internet. Sur les contenus terroristes, un accord est imminent à Bruxelles, la France pousse pour un retrait dans un délai d'une heure. Sur la haine en ligne, la négociation s'annonce beaucoup plus délicate selon une source européenne car chaque pays a sa propre vision pénale. En Pologne, pays très catholique, le blasphème peut être considéré comme de la haine en ligne. Et que dire de la Hongrie de Viktor Orban qui pourrait se saisir de cette législation pour la détourner politiquement à son profit? Il faudra donc d'abord se mettre d'accord à 27 sur la définition, ce qui n'est pas une mince affaire, souligne un observateur.
d'un état d'urgence à l'autre, ou quand la France, confrontée au terrorisme puis au coronavirus, vit dans l'exception juridique permanente un provisoire devenu quasiment commun et qui suscite toujours et encore de nombreuses interrogations, autant sur l'adaptation de son droit que sur les risques pesant à terme sur les libertés des citoyens. Quoi qu'il en soit, hier, devant la baisse fragile de la deuxième vague de Covid-19, le Premier ministre Jean Castex a donc annoncé le maintien du confinement au moins jusqu'au 1er décembre et même au-delà pour les déplacements, avec en revanche une possible réouverture à cette date des commerces qui exclurait de facto cafés, restaurants et salles de sport. Alors, compte tenu de la circulation virale trop importante, le gouvernement avait-il d'autre choix que de maintenir les mesures de confinement en vigueur ? Certains s'étonnent en revanche de l'absence de mesures supplémentaires pour les collèges et les lycées, en dépit de la mobilisation d'une partie des professeurs du second degré, et alors même que le taux d'incidence continue de grimper chez les jeunes. Je vous propose d'écouter la réaction de Frédéric Rollet, secrétaire général du FNES FSU.
On a l'impression que le ministre vit dans un autre monde. Nous avions demandé que les établissements aient la possibilité d'avoir des groupes et une organisation pédagogique qui permette de maintenir le lien pédagogique, mais en assurant la sécurité sanitaire. On demande aussi des recrutements de personnel. Alors là, le ministre a parlé de recrutement d'assistants d'éducation, de services civiques, de plus de remplaçants. On se demande où il les trouve, puisqu'il a refusé jusqu'ici d'aborder la question des recrutements. Nous avions demandé des dispositifs qui permettent de mieux aérer les salles, d'avoir du matériel aussi pour nettoyer. Tout ça n'est absolument pas à l'ordre du jour. Nous n'avons d'ailleurs absolument pas été consultés sur quoi que ce soit. Les collègues vont être furieux du décalage entre un propos qui se veut absolument rassurant sur le thème « on a tout prévu, tout va bien » et la réalité de ce que nous connaissons.
Voilà, Frédéric Rollet, secrétaire général du FNES FSU, au micro de Laura Dulieu. Reporter les élections régionales et départementales de mars à fin juin serait une option raisonnable au regard de la situation sanitaire et politique. Voilà ce que préconise le rapport commandé par l'exécutif et remis ce matin par l'ancien président du Conseil constitutionnel Jean-Louis Debray. Antoine Maret, bonjour.
Bonjour Thomas.
Alors le Premier ministre Jean Castex a aussitôt prévenu qu'il allait engager les démarches visant à reporter ces élections et sans doute Antoine s'inspirera-t-il pour cela des quelques aménagements proposés justement dans ce rapport.
Et Jean-Louis Debray, suggère un calendrier rapide, rendre une décision dès le début du mois de décembre. Matignon devrait donc présenter un projet de loi en Conseil des ministres entre soit le 2 décembre, soit le 16 décembre, avant d'être discuté et voté par les deux assemblées en vue d'une promulgation en février. Jean-Louis Debray appelle le Conseil scientifique à remettre au Parlement un point de situation sur l'évaluation de la situation sanitaire avant la tenue des scrutins, sans que cela ne constitue pour autant une clause de revoyure automatique. Il demande aussi une évaluation spécifique du contexte épidémique en Guyane. Autre point de ce rapport, le vote par correspondance. L'ancien président du Conseil constitutionnel suggère au gouvernement d'envisager son développement, ainsi que le vote par Internet. Matignon, sur ce point, n'a pas encore tranché. En attendant pour les élections départementales et régionales, Jean-Louis Debray suggère de faciliter le vote par procuration, qui lui existe déjà, avec une piste, permettre à chaque électeur de pouvoir être titulaire de deux procurations. Actuellement, un électeur peut avoir deux procurations, mais une seule peut être établie en France. Dernier point, les dépenses électorales. Le rapport propose de majorer leur plafond, car si report il y a, la période de campagne sera allongée et les dépenses avec.
Merci Antoine Marette. Parce que la crise du Covid ne saurait être la seule responsable aujourd'hui pointée du doigt pour tous ces traits de plume qui noircissent de plus en plus souvent les cahiers de comptabilité, le géant japonais du pneumatique Bridgestone a confirmé hier la fermeture de son site de Béthune employant 863 salariés. Dans la foulée, le manufacturier qui entend ainsi sauvegarder la compétitivité de son activité en Europe a affirmé avoir identifié 10 opportunités, dont 4 projets d'entreprises de pneus basées à l'étranger dans la recherche d'un éventuel repreneur. Et pour en parler avec nous, invité de la rédaction aujourd'hui, Roland Lescure, président LREM de la Commission des affaires économiques de l'Assemblée. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Et à mes côtés pour vous interroger, Anne-Laure Jumet. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour.
Alors avant de revenir avec vous donc sur cette fermeture, une première réaction peut-être, Monsieur Lescure, à la confirmation donc ce matin par le gouvernement qu'il allait engager les démarches visant à reporter les prochaines élections régionales, départementales. On sait que contrairement à la cacophonie qui avait entouré la tenue des deux tours des municipales l'an prochain, cette fois-ci un consensus semble se dessiner autour de ce report. Est-ce que vous y êtes également favorable ?
Oui, moi je pense qu'il faut à tout prix à la fois montrer que le virus n'empêche pas la démocratie, donc il faut que ces élections se tiennent, mais compte tenu de la situation sanitaire aujourd'hui, compte tenu de la saisonnalité du virus, le consensus qui consiste à dire juin semble plus raisonnable pour les tenir, me semble totalement acceptable. Attention, il faut que du coup on s'organise pour que ces élections aient lieu, et bien lieu en juin, parce que je suis pas pour le fait qu'on renvoie, je dirais, d'échéance en échéance, des élections qui finalement risqueraient de ne pas se tenir ou de ne pas se tenir tout de suite. Donc oui, pour un report en juin, mais on s'en tient là et on fait tout pour que ces élections aient bien lieu d'ici le mois de juin.
Question d'Anne-Laure Jumet.
Alors venons-en à Bridgestone. Roland Lescure, on se souvient de la phrase de Lionel Jospin, « L'État ne peut pas tout », c'était il y a plus de 20 ans. On en a encore finalement avec ce dossier une éclatante démonstration, mais n'était-ce pas prévisible ? Vous qui êtes économiste de formation, vous savez que l'État n'a pas de moyens d'action face à un groupe privé dont il n'est pas actionnaire.
Alors, l'État ne peut pas tout, il peut quand même faire pas mal de choses, et de ce point de vue-là, le gouvernement n'a pas ménagé ses efforts pour essayer, de limiter la casse. Mais contre l'incompétence, on ne peut pas faire grand-chose. Moi, je suis extrêmement déçu de cette décision, mais elle reflète finalement les décisions successives d'une direction, qui n'a pas su adapter un outil de production aux enjeux modernes. Quand vous avez une usine qui fabrique des pneus du XXe siècle, alors que toutes les entreprises de fabrication de pneumatiques sont en train de moderniser à la fois leurs outils de production, mais surtout les produits, ben on se retrouve avec une usine malheureusement dépassée et qui doit fermer. Je le regrette évidemment fortement. L'histoire est quand même pas terminée. Et il faut évidemment aujourd'hui s'occuper avant tout des salariés, mais aussi du site de production qui a quelques perspectives d'avenir.
Quatre projets bien définis, hein, dit Bridgestone, on parle de deux Indiens, un Chinois et un Turc. Cela dit, le temps du politique n'est pas celui des industriels, puisque fin septembre, la ministre de l'Industrie, Agnès Pannier-Runacher, affirmait que l'on discuterait pendant 5 mois des alternatives à la fermeture, et moins de 2 mois plus tard, la fermeture est annoncée. La direction de Bridgestone rejette le plan alternatif proposé par l'État. Est-ce que dans ce dossier, le gouvernement n'a pas suscité l'espoir des salariés alors qu'ils connaissaient l'issue ?
Non, moi je connais suffisamment Agnès Pannier-Runacher pour vous dire qu'elle a, un, pas ménagé ses efforts, et deux, fait tout pour qu'on trouve une solution. In fine, le propriétaire de l'usine, c'est Bridgestone. On ne peut pas donner à boire à un âne qui n'a pas soif. C'est eux qui sont décisionnaires. Je pense qu'il y a peu d'États dans le monde qui sont capables d'engager, y compris des moyens, pour essayer de susciter des offres alternatives, des propositions alternatives de reclassement du site au sein de Bridgestone. À la fin, c'est Bridgestone qui décide. Il faut maintenant qu'il nous accompagne dans l'accompagnement des salariés de manière à préparer l'avenir des hommes et des femmes qui sont sur le terrain, parce que au fond, c'est ça qui compte.
Donc vous actez l'impuissance de l'État dans ce type de dossier, finalement, Roland Lescure ?
Non, je pense que c'est pas l'État peut tout ou l'État peut rien. L'État, il est là pour accompagner, évidemment, une fois que cette décision que je regrette, hein, là encore, est prise, mais qui est avant tout le reflet de mauvaises décisions stratégiques d'une direction. Ça, c'est pas l'État qui en est en charge depuis de nombreuses années, mais sur la formation, sur la requalification, sur la recherche de repreneurs, l'État peut faire beaucoup. Mais j'entends ici ou là certains dire « il suffit de nationaliser ». Non, on ne nationalise pas une usine de pneus. L'État français ne va pas se mettre à fabriquer des pneus qui plus est des pneus dépassés. Donc c'est vrai qu'il faut, savoir ce que l'État peut faire, et reconnaître aussi que l'État ne peut pas tout faire.
Alors, il y a aussi des réactions, celles notamment du Parti communiste et de la France insoumise, qui demandent à ce que Bridgestone rembourse l'argent public. Le groupe a bénéficié d'aides régionales, du crédit impôt compétitivité emploi. Est-ce que ça, c'est une piste envisageable ?
Alors, il y a sans doute quelques aides ponctuelles spécifiques qui peuvent faire l'objet de remboursement. Pour ce qui est des aides de droit commun, évidemment, c'est aujourd'hui légalement impossible. Mais surtout, moi, ce qui m'importe, c'est plutôt que de regarder dans le rétroviseur, c'est le cas de le dire, qu'on regarde en avant. C'est-à-dire que qu'est-ce que Bridgestone va faire pour nous aider à requalifier les personnels, pour nous aider à former les gens ? Et ça, c'est tout l'enjeu des négociations qui, elles, vont se poursuivre pendant encore quelques semaines et quelques mois.
Mais de la même manière, ils font ce qu'ils veulent ? Ou est-ce que là, il y a un peu plus de moyens d'action ?
là, il y a plus de moyens d'action. C'est un plan de sauvegarde de l'emploi qui va être négocié, qui va être présenté et qui va faire l'objet, évidemment, d'une pression très forte, je peux vous le dire, de la part de l'État, pour que ce plan de sauvegarde de l'emploi porte bien son nom. Malheureusement, souvent, ces plans de sauvegarde de l'emploi sont en fait des plans sociaux déguisés dont on a changé un peu le fronton. Non, il faut qu'on profite, j'allais dire, de cette occasion pour sauvegarder l'emploi. On a un projet d'usine de batterie du futur qui est prévu à une quinzaine de kilomètres de l'usine d'aujourd'hui. Ça va nécessiter des requalifications. On va embaucher dans les années qui viennent 2500 personnes, pas très loin. Bridgestone doit contribuer à cette requalification des personnels.
Merci Roland Lescure, président LREM, je le rappelle, de la Commission des affaires économiques de l'Assemblée, d'avoir répondu à notre invitation. Et merci également à Laure Jumet. Coup d'État ou coup d'éclat, la croisade médiatico-judiciaire sans précédent dans l'histoire politique américaine dans laquelle s'est lancé Donald Trump semble décidément et à bien des égards incompréhensible et soulève une interrogation centrale. Quel est donc l'objectif du président sortant? Si pour certains, l'ex-magnat des affaires serait ni plus ni moins en train de fomenter un attentat contre l'institution démocratique, pour d'autres, l'impétueux septuagénaire résolu mais frustré de devoir quitter la scène chercherait plus simplement à conserver les projecteurs braqués sur lui, quitte donc à afficher le comportement contraire à l'humilité d'un vaincu et à la décence d'un sortant. Reste que 10 jours après le scrutin, Donald Trump, qui hier encore tweetait « élection truquée », est toujours dans l'incapacité de produire un seul élément concret prouvant l'existence d'une fraude à grande échelle. L'élection a été la plus sûre de l'histoire des États-Unis, ont même affirmé hier plusieurs autorités locales et nationales en charge de la sécurité du scrutin. Et puis surtout, on l'a appris ce matin, Joe Biden a lui définitivement remporté l'État de l'Arizona, connu pour pencher habituellement du côté républicain. Une courte conséquence, 11 000 voix seulement d'avance, mais qui consolide en revanche davantage encore la victoire du démocrate à l'élection présidentielle avec désormais 11 grands électeurs de plus. Je vous propose d'écouter l'analyse d'André Caspi, historien spécialiste des États-Unis, joué en téléphone par Nathanaël Charbonnier.
La réponse est claire, Donald Trump a perdu les élections présidentielles et Joe Biden les a gagnées. Cela dit, la différence entre les deux candidats est minime, donc c'est une victoire à l'arraché. Et c'est une victoire qui donne satisfaction malgré tout aux deux candidats, puisque les deux ont augmenté le nombre des électeurs qui d'habitude votent républicain ou votent démocrate. Alors que peut faire Donald Trump? Il peut s'entêter. Il a encore 2 mois devant lui. Il peut prendre toutes les décisions qu'il veut parce que il est toujours le président des États-Unis, que ce soit sur le plan intérieur ou sur le plan extérieur. Ça ne changera rien, mais cela affaiblit considérablement les décisions qu'il pourrait prendre parce que il peut créer des précédents. Il peut en somme contraindre Biden à suivre une voie que Biden ne souhaitait pas suivre. Mais il est évident que maintenant le monde attend l'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche et les décisions que le nouveau président prendra.
Voilà, André Caspi, historien spécialiste des États-Unis, joué en téléphone par Nathanaël Charbonnier. Au Pérou, 4 jours après la destitution du président Martin Vizcarra par le Parlement, suite à des soupçons de corruption, la mobilisation populaire ne faiblit pas. Depuis lundi, les Péruviens sont nombreux à descendre dans la rue pour protester contre cette destitution, mais aussi contre le nouveau gouvernement. Le président de la République par intérim, ancien président du Parlement, Manuel Merino, est en effet accusé par les manifestants d'avoir orchestré cette destitution à des fins personnelles. Et c'est ainsi qu'hier, des centaines de milliers de Péruviens se sont à nouveau rassemblés aux quatre coins du pays pour exiger son départ. Reportage à Lima, signé de notre correspondante Vilhoen Munoz-Boileau.
Des dizaines de milliers de manifestants se sont rassemblés place San Martín, dans le centre historique de Lima, hier pour réclamer le départ de Manuel Merino, le président péruvien par intérim. Cette jeune femme l'accuse d'être à l'origine d'un coup d'État.
Manuel Merino et sa clique ont destitué le président pour prendre le pouvoir et servir leurs propres intérêts. Cette destitution n'est pas une décision du peuple, c'est une décision autoritaire.
Les étudiants comme elle sont particulièrement mobilisés car ce nouveau président et son gouvernement veulent s'attaquer à l'université, comme l'explique Roberto, 18 ans.
Ils veulent supprimer l'instance qui garantit la qualité de l'enseignement supérieur car certains membres du nouveau gouvernement sont propriétaires d'universités privées à qui on a retiré la licence.
Malgré la pandémie, les plus âgés eux aussi se sont mobilisés. Une mobilisation historique selon ce retraité venu manifester avec sa compagne.
On n'avait pas vu une telle mobilisation depuis 20 ans. Les gens sont en colère et on va continuer à manifester jusqu'à que Merino quitte le pouvoir.
Signe de leur détermination, à plusieurs reprises, les manifestants ont repris ce slogan des révoltes latino-américaines. Le peuple uni jamais ne sera vaincu. Dans la soirée, la manifestation pourtant pacifique a été violemment réprimée par les forces de l'ordre, obligeant les manifestants à se disperser.
On termine ce journal avec un mot du temps pour cet après-midi humide et couvert au nord, quand le sud bénéficiera de quelques éclaircies. Quant aux températures, elles afficheront entre 14 et 20 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Pommet. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Annabelle Grelier pour le prochain journal de la rédaction.
Contre la Covid-19, mais aussi la grippe et les virus de l'hiver, il y a les gestes barrières. Lavons-nous les mains régulièrement. Toussons ou éternuons dans notre coude. Utilisons un mouchoir à usage unique. Respectons la distanciation physique. Portons un masque dès que c'est recommandé. Aérons les pièces plusieurs fois par jour. Ensemble, continuons d'appliquer les gestes barrières. Plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci était un message du ministère chargé de la Santé, de l'Assurance Maladie et de Santé Publique France.
12h et bientôt 56 minutes sur France Culture. L'heure de vous retrouver, Lucille Comeau, pour la critique deuxième partie.
Merci beaucoup Thomas Cluzel et bon week-end à vous. La critique se poursuit et nous parlons maintenant de séries. En studio avec moi, Sarah Hilaire-Meyer, commissaire d'exposition et critique d'art. Et depuis chez lui, Olivier Joyard, critique et réalisateur de documentaires. Dans quelques instants, nous parlerons de la saison 4 de Fargo, mais tout de suite, le jeu de la dame sur Netflix, créé par Scott Frank et Alan Scott.
Men are gonna come along and wanna teach you things. Doesn't make them any smarter. You just let them blow by, and you go on ahead and do just what and how you feel like. Someday you're going to be all alone, so you need to figure out how to take care of yourself. Tell the readers of life how it feels to be a girl among all those men.
I don't mind it. Chess isn't always competitive. Chess can also be beautiful.
You're an orphan, Beth.
I'm fine being alone. I feel safe in an entire world of just 64 squares.
Well, creativity and psychosis often go hand in hand. Or for that matter, genius and madness.
La dame du jeu, c'est Elizabeth Harmon. Au début du premier épisode, on la découvre rousse et pâle. Elle est en gueule de bois dans la suite d'un hôtel parisien. On frappe à la porte, elle est en retard. Elle enfile une robe, elle dégringole les escaliers, ouvre une porte. Les flashs crépitent. Elle s'avance, le regard un peu vitreux, serre la main d'un homme qui a deux fois son âge et s'assied en face de lui, entre deux, le plateau d'un jeu d'échecs. Nous sommes en 1967. Elisabeth joue contre le champion soviétique et le jeu de la dame nous raconte en 7 épisodes comment elle en est arrivée là. Olivier Joyard, votre premier regard sur le jeu de la dame, cette mini-série Netflix.
J'ai découvert avec un tout petit peu de décalage par rapport à cette idée que tout le monde parle de en ce moment. En fait, il y a quand même quelques séries chaque année qui... crève l'écran, je dirais, et celle-ci en fait partie. Et moi, ça nourrit un certain soupçon, en fait. C'est-à-dire que j'ai commencé à la regarder en me demandant, et même à l'aimer, en me demandant, est-ce que je l'aime parce qu'elle me console de l'ennui confiné actuel? Je pense qu'on a, notre rapport aux séries est en train un peu de changer. C'est-à-dire qu'on a besoin encore plus d'une forme de consolation. Et celle-ci, coche à peu près toutes les cases. Donc je me suis demandé, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à en tirer au-delà de la séduction évidente et énorme qui est de, en gros, s'intéresser aux échecs, alors qu'on est comme moi quelqu'un qui n'a pas pratiqué ce jeu. Beaucoup de gens jouent aux échecs, mais peu de gens en connaissent les subtilités du haut niveau. Donc c'est un peu comme quand on regardait à la Maison Blanche sur la politique avec des espèces, on se passionnait pendant un épisode pour des lois, des trucs très très étranges. Donc là, moi j'ai pris un plaisir assez basique devant la série, pour son côté success story, enfin vraiment l'histoire, cette ascension d'un corps qui ne devrait pas appartenir au camp des vainqueurs, hein, parce que c'est une petite fille, on la rencontre comme ça, orpheline, qui va révéler son très très grand talent. Il y a presque un côté mythologique qui m'a, comme la fiction américaine, c'est très très bien les mettre en scène. Ça m'a même fait penser, c'est un peu bizarre d'ailleurs, à Rocky, quoi. C'est-à-dire, bon, Rocky, c'est un peu le loser de Philadelphie, de la classe ouvrière, qui arrive au sommet de la boxe mondiale. Bah là, en fait, il y a quand même quelques petites similarités dans cet esprit-là, même si l'enveloppe n'est évidemment pas du tout la même. Mais bon, elle affronte des méchants, comme dans Rocky IV, des Russes, quoi, à un moment, au fil de la saison. Donc voilà, déjà, je me suis... c'est-à-dire que j'ai du mal à crier au chef-d'œuvre directement, mais ça m'a... assez galvanisé, quoi. C'est très étrange de se dire qu'on est galvanisé par des échecs et un jeu qui est d'abord un jeu cérébral d'attente, de silence même. Voilà, c'est vraiment cette partie-là, moi, qui m'a intéressé. C'est-à-dire que, en gros, dans la bande-annonce que vous passiez tout à l'heure, il y a un moment, on parle de génie et de folie. Comme quoi les deux seraient liés, qui est un peu le cliché des grands artistes. Moi, c'est clairement le côté génie qui m'a plus intéressé dans la série. C'est-à-dire la façon dont elle est mise en scène. On voit donc cette femme, cette jeune femme, puis cette femme fragile, en proie à l'alcool. Du point de vue sentimental, elle se débrouille pas très bien non plus. Ça, je l'ai déjà vu.
On va y revenir sur ouais, peut-être la construction ensuite du personnage féminin. Sarah Hillermeyer, votre regard sur le jeu de la dame?
C'est une série que j'avais pas particulièrement envie de voir, hein, parce que à la lecture du pitch et puis au visionnage de la bande-annonce, hein, j'avais l'impression que l'enjeu c'était surtout de produire une série un peu glamour à contre-emploi, avec une femme qui joue aux échecs mais qui serait elle-même glamour et dont les addictions le seraient aussi. Donc en l'occurrence, j'ai assez vite changé d'avis, déjà parce que la figure de Bess n'est jamais traitée, comme je le craignais, comme un objet un peu facile de séduction qui viendrait comme ça pimenter les parties d'échecs avec ses beaux cheveux roux, sa bouche en cœur et son air un peu mutin.
Non, elle est plutôt antipathique d'ailleurs comme
personnage. Enfin, elle est très complexe, elle est vraiment traitée comme un sujet qui est opaque et riche de contradictions. Et puis si j'ai changé d'avis, c'est aussi parce que ce qui se dessine entre Bess et les échecs, c'est un enjeu qui est, je crois qu'on peut qualifier d'existentiel, et qui consiste à se demander comment est-ce qu'on fait pour parer au vide de l'existence, à son aspect imprévisible, chaotique et aussi quand même souvent dramatique. Donc la réponse ici, évidemment, elle se trouve dans sa passion obsessionnelle pour les échecs, qui devient, on le comprend assez rapidement, un monde de substitution. On le voit parce que la série, elle se déroule pour l'essentiel, soit entre des tournois d'échecs, soit dans les espaces confinés où elle s'entraîne et où elle s'adonne à l'alcool. D'ailleurs, dans un entretien qui est intéressant avec une journaliste de Life, elle dit que c'est un univers en 64 cases qu'elle peut maîtriser, contrôler, dans lequel tout est plus ou moins prévisible. Et ce qui est assez intéressant, c'est que cette figure centrale, je pense, de la substitution au monde qu'est le jeu d'échecs, elle s'enchasse avec d'autres éléments du récit qui sont centraux, comme par exemple la mère adoptive, mais aussi ses addictions à l'alcool et aux anxiolytiques, qui sont toutes en fait, en quelque sorte, viennent combler un manque originel, qui je crois peut parler à tout le monde au-delà de la vie de Bess. Et peut-être juste une chose là-dessus, c'est que ce qui est étonnant, c'est que cette dimension psychologique, je trouve qu'elle a rien de... Elle rend pas la série morbide ou